Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Au retour des vacances de la Toussaint, marquées par une petite accalmie dans l'agenda des spectacles en général, des événements musicaux en particulier, et c'est ça bien sûr qui nous intéresse à Mélomanie, cette période de calme relatif est maintenant terminée et la farandole des concerts repart à plein régime cette semaine, notamment avec les premiers concerts des Clés de Saint-Pierre et des Arts Renaissants. Beaucoup d'autres propositions, toutes plus alléchantes les unes que les autres, vont s'enchaîner par la suite, presque sans interruption. Le mois de novembre s'annonce donc d'une très grande densité, comme nous l'avions annoncé lors de nos précédents numéros. Vous allez en avoir un premier aperçu dans cette émission où je suis très heureux de retrouver mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et on commence en revenant bien entendu sur l'actualité musicale récente, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour et bienvenue à vous aussi, Serge.
Bonjour, Eric.
Notre retour sur l'actualité musicale concerne un événement un peu plus récent, puisqu'il a eu lieu lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines, le premier concert de la saison 23-24 des Clés de Saint-Pierre. Il était intitulé « Quintettes en miroir ». Nous y étions tous les deux et nous avons passé, je crois pouvoir parler aussi en votre nom, un très bon moment à l'écoute d'un programme fort original où Il y a eu plusieurs découvertes.
Absolument. Il y a eu deux piliers, en quelque sorte, du répertoire Mozart-Beethoven, et puis deux découvertes, deux petites choses, mais vraiment intéressantes, et que l'on a, pour ma part en tout cas, découvertes ce soir-là.
Je pense que c'est la majorité des gens dans la salle aussi, c'était des découvertes pour eux.
Ah oui, absolument. Alors, il faut quand même préciser de quel musicien était venu pour animer ce concert. Il y avait tout d'abord le hautboïste Louis Séguin, la clarinettiste Floriane Tardy, la bassoniste Estelle Richard, et puis deux musiciens un peu multitâches en quelque sorte, Jean-Sébastien Borsarello, qui est en fait le timbalier soliste de l'Orchestre National du Capitole, mais qui est aussi pianiste, et qui ce soir-là a exclusivement joué du piano. Et puis il y avait également François Lugue, qui est corniste, et qui est également pianiste, et donc qui a participé à l'une des pièces au programme ce soir-là. Donc, cinq musiciens que l'on connaît bien, hein, quand on suit les concerts de l'Orchestre National du Capitole, et qui ont effectivement participé à deux grandes œuvres, deux grands quintettes pour piano et vent, celui de Mozart et celui de Beethoven, qui ont la particularité de posséder la même structure musicale, la même tonalité de mi bémol majeur, et la même composition instrumentale. En fait, c'est Beethoven qui, 12 ans après la création du quintet de Mozart, a composé ce quintet, on peut dire, sur le modèle de celui de Mozart. Et puis, il y avait deux œuvres rares de jeunesse de Beethoven, une sorte de trait d'union significatif avec une sonate pour piano à quatre mains et un duo pour clarinette et basson, deux divertissements qui étaient à découvrir pour la plupart des gens réunis du public ce soir-là. Donc la soirée s'est ouverte sur le fameux quintet pour piano et vent de Mozart, le Köchel 452, œuvre de maturité de Mozart, hein, qui a été joué par l'ensemble des cinq musiciens. Alors ce que pour ma part, qui m'a frappé immédiatement, mais ce n'est pas étonnant, c'est la cohésion de l'ensemble. Bon, on voit que ce sont cinq musiciens qui ont l'habitude de jouer ensemble au sein de l'orchestre, et il y a cette cohésion orchestrale que l'on retrouve au niveau musique de chambre. Et puis un bel équilibre sonore avec les cinq instruments qui sont vraiment à égalité. Il n'y avait pas de domination de l'un sur les autres. Donc, très beau moment avec une intensité des dialogues entre les différents registres et les différents instruments. Et puis une espèce de ferveur des échanges, en particulier pour ce final qui vraiment est une pièce pleine de vie et de nuances, puisque ce sont vraiment des musiciens qui savent nuancer, les phraser, etc. Donc vraiment une très belle exécution de ce quintet que l'on n'entend pas si souvent, bien qu'il soit connu tout de même, mais il n'est pas très souvent donné en musique de chambre, donc ça a été un très beau moment.
Et puis je souligne justement la performance de Jean-Sébastien Borsarello au piano,
ah, oui,
parce
oui.
que c'est son premier instrument tout de même.
Oui,
hein.
oui.
Il a bifurqué vers les percussions un peu plus tard dans sa formation musicale, mais on voit quand même que c'est un musicien né, parce qu'il a fait des nuances, il a un très joli toucher, le son était très beau, et puis il a su effectivement aussi trouver l'équilibre avec ses partenaires.
Équilibre parfait, hein, avec un sens des trilles très bien, très cristalline, donc vraiment un beau toucher, c'est un excellent pianiste.
Et oui, nous allons écouter un premier extrait de ce programme avec le Largo du quintet pour pianos et vents mi bémol majeur K452 de Mozart. C'est le premier mouvement de cette pièce. Le Largo, le premier mouvement du quintet pour pianos et vents mi bémol majeur K452 de Mozart, qui a été suivi lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines d'une pièce de Beethoven, la première que l'on entendait, le reste ça va être du Beethoven, une œuvre de prime jeunesse qui n'a même pas fait l'objet d'un numéro d'opus, Serge.
Non, alors ça c'est la deuxième pièce.
Oui, ça sera la sonate, vous avez raison.
La sonate piano. D'abord. La sonate en ré majeur, c'est l'opus 6. Donc vraiment les toutes premières œuvres accomplies par Beethoven. Et là c'est une sonate pour piano à quatre mains et qui était jouée donc par Jean-Sébastien Borsarello et François Lugue. Il faut préciser qu'ils ont tous les deux effectivement mené des études de piano avant de se consacrer à leur instrument respectif. Hein, donc,
Oui, sachant que autant Jean-Sébastien Borsarello a toujours maintenu le contact, le lien. Et il continue à prendre des cours d'ailleurs au conservatoire, avec les professeurs du conservatoire, alors que François Lugue, il a fallu qu'il s'y remette lui. Hein.
Oui, c'est ce qu'il nous a avoué après, mais il a très bien accompli sa tâche, hein, puisque là, pour cette sonate pour piano à quatre mains, est vraiment une œuvre... Alors, amusante, je dirais, puisque les toutes premières mesures, ça évoque irrésistiblement le premier mouvement de la 5e symphonie. On a un pom-pom-pom-pom au tout début, ce qui est tout de même incroyable. D'ailleurs, qu'il nous avait présenté, puisqu'en plus...
Jean-Sébastien Borsarello a fait Monsieur Loyal.
Voilà, il présentait les œuvres qu'il jouait. Donc, ça a été un très beau moment aussi que cette courte sonate. Hein. Et puis, ça a été suivi du second de ces divertissements en question, qui est, je dois dire, encore plus rare que cette sonate à quatre mains. C'est un extrait, en fait, qu'ont joué les deux clarinettistes et bassonistes de la soirée, un extrait des trois duos pour clarinette et basson, qui est Werke ohne Opus 27, donc une œuvre qui n'a pas été publié de la vie de Beethoven, qui a été publié à la suite, et donc dont on ne connaît pas vraiment la date de composition.
Ouais, non. Oui, ce n'est pas forcément une œuvre de prime jeunesse, d'ailleurs.
Non, peut-être pas, mais alors apparemment, bon, c'est une œuvre qu'il a dû composer pour des amis à lui, hein, ou pour des élèves, on ne sait pas. Et donc, c'est vraiment une œuvre amusante, que j'ai trouvée amusante par l'esprit qui règne, et même, on pourrait dire, un peu d'humour même, entre les deux instruments. Et donc, les deux musiciennes, Florian Tardy à la clarinette et Estelle Richard au basson, évidemment, ont excellé dans ces échanges
beaucoup de complicité entre les deux musiciennes.
Oui. C'était vraiment un très beau moment aussi. Et puis, donc, nous sommes arrivés à l'héritier, en quelque sorte, du quintet de Mozart, qui est le quintet pour piano et vent, également en mi bémol majeur, mais là c'est l'opus 16, donc œuvre aussi de jeunesse de Beethoven.
Composé en 1796, il a 26 ans.
Oui, donc pour Beethoven c'est encore
pour Beethoven,
une œuvre
c'est
de
jeune.
Jeunesse.
Pour Mozart c'était déjà la grande maturité,
ah,
26
oui,
ans.
Bah, oui, bah,
son quintet il le compose à 28 ans, hein, Mozart.
Oui, donc...
Mais seulement 12 ans plus tôt.
Oui, et 12 ans plus tôt. Et donc... encore une fois, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que le quintet de Mozart. Il est évident que Beethoven s'est inspiré de Mozart pour composer cette œuvre. Hein. Alors, c'est amusant, on a exactement la même solennité de l'ouverture, lente, dans les deux cas. Et puis, des liens évidents entre les deux œuvres, avec aussi une certaine grâce légère. J'ai trouvé que Beethoven avait dû connaître le corniste qui a joué, parce que j'ai trouvé que la partie de corps était particulièrement élaborée,
oui,
avec quelques traits virtuoses, et puis en particulier un très beau solo chantant dans la partie andante cantabile, d'où le nom cantabile, c'est le chant, donc, et que le soliste François Lug a magnifiquement joué ce soir-là, très très bon, avec ses collègues, le hautbois de Louis Seguin, on le connaît, hein, le hautbois solo de l'orchestre, excellent, très fin comme jeu, la poésie de Florian Tardy à la clarinette, et puis les belles ponctuations du basson d'Estelle Richard, donc vraiment très bien intégré à l'ensemble des musiciens. Donc. Et puis, le soutien de notre cher Jean-Sébastien Borsarello, une fois de plus, qui a vraiment réalisé un soutien à la fois rythmique et harmonique de haute qualité pour ce magnifique quintet. Alors, ça a été évidemment très applaudi par l'ensemble du public, qui était nombreux.
Je pense qu'ils se sont régalés autant qu'ils ont régalé le public.
Ah oui, absolument. Il n'y a qu'à observer les regards échangés entre eux. Hein. Vraiment, c'était un régal absolu. Et donc, ça a été extrêmement applaudi par le public nombreux. Et du coup, ils sont revenus pour donner la fin du rondo de ce quintet, pour reprendre la fin du rondo final, donc en quelque sorte, pour le grand plaisir de l'ensemble, des musiciens et du public. Donc,
ils ont fait ce bis en y mettant quelques nuances supplémentaires.
Oui, peut-être.
Pour
oui,
s'amuser
oui.
un petit peu.
Effectivement, oui.
Voilà, mais écoutez, on va revenir sur ce quintet pour pianos et vents en mi bémol majeur opus 16 de Ludwig van Beethoven avec son troisième mouvement, Rondo Allegro ma non troppo. Vous allez pouvoir faire un petit essai comparatif avec celui de Mozart composé 12 ans plus tôt, même si je vous ai fait écouter le premier mouvement du quintet de Mozart. Là, on écoute le troisième mouvement de celui de Beethoven. Thank you. Le troisième mouvement, Rondo Allegro, ma non troppo du quintet pour pianos et vents, mi bémol majeur, opus 16 de Beethoven, pour conclure cette première partie d'émission, consacrée donc au concert d'ouverture des Clés de Saint-Pierre. Le prochain de la saison a lieu également à Saint-Pierre-des-Cuisines, lundi 27 novembre à 20h, ça va arriver rapidement, et c'est la musique de chambre britannique qui y est à l'honneur. Rendez-vous dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie, toujours avec Serge Chosy. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Retour au direct avec Serge Chosy pour cette rubrique agenda que nous allons ouvrir avec un récital, celui que donne le baryton russe Mikhail Timochenko à l'Opéra National du Capitole ce jeudi 9 novembre à 12h30. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle les midis du Capitole. Une heure de programme pour ce jeune et excellent chanteur que l'on a déjà eu l'occasion d'entendre avec beaucoup de bonheur à Toulouse, Serge, puisqu'il interprétait le rôle de Marcello dans la distribution de La Bohème la saison dernière.
Ah oui, tout à fait, on avait remarqué sa prestance d'abord, et puis le très beau timbre, un timbre velouté, une grande musicalité, donc c'est vraiment un excellent chanteur. Et d'ailleurs, il fera partie de la distribution des prochaines représentations de Boris Godounov, puisqu'il remplira le rôle du boyard Shchelkalov. C'est pas un rôle essentiel, mais c'est quand même un rôle important. Voilà, Timochenko est...
En plus, c'est une production très attendue, hein, Boris Godounov. C'est du 24 novembre au 3 décembre, il y a 5 représentations. Ceux qui nous écoutent l'ont sans doute déjà noté pour les passionnés d'opéra, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, il reste des places. Donc c'est le moment de se précipiter pour avoir les places de ce qui devrait être, je pense, encore un très très grand moment de la saison à l'Opéra National du Capitole. Alors donc, Mikhail Timochenko va présenter un programme franco-russe.
Mais oui, un programme franco-russe avec certains thèmes qui reparaissent deux fois, une fois en français, enfin deux fois en français en l'occurrence donc, et puis avec notamment du Ravel. En principe, il commencerait par les trois mélodies de Don Quichotte à Dulcinée, de Maurice Ravel, et puis du Tchaïkovski avec un air extrait de La Dame de Pique, l'air Dieletsky. Et puis ensuite du Rachmaninov, de nouveau dans musique russe, avec plusieurs mélodies. L'une, alors je ne m'hasarderai pas à vous donner les titres russes.
Moi non plus.
D'accord. La première mélodie, c'est « Ô toi mon champ de blé », et puis « Le rêve », puis « Elle est belle comme le jour », et enfin « Beauté ne chante pas devant moi ». D'après Pouchkine. Donc voilà les quatre mélodies de Rachmaninov.
Que... Oui, c'est intéressant effectivement de citer les auteurs des textes, enfin des poèmes sur lesquels sont composées les musiques en question. Exactement. Parce que ce sont souvent de très grands auteurs.
Hein. Ben oui, et Tolstoï notamment le premier.
Hein. Alors c'est Alexis, hein, c'est un lointain parent, mais c'est quand même un parent de Léon, Alexis Tolstoï effectivement. Oui, et donc Pouchkine, et concernant Ravel, les mélodies Don Quichotte à Dulcinée, c'est composé sur des poèmes de Paul Morand.
Paul Morand, exactement. Et donc ensuite, il y aura trois airs, également mélodies, de Tchaïkovski cette fois, avec Forêt, je vous bénis, de nouveau du même Tolstoï d'ailleurs, et puis non seul celui qui connaît la nostalgie, alors là c'est connu, c'est de Goethe, puisque ce poème a fait l'objet de mises en musique nombreuses. Et puis ensuite, toujours de Tchaïkovski, la sérénade de Don Juan, mais qui n'a rien à voir avec celui de Mozart évidemment. Et enfin, le récital devrait se terminer avec quatre chansons de Don Quichotte, de nouveau.
On y revient.
On y revient, après Ravel. Cette fois, c'est Jacques Ibert, avec la chanson du départ, la chanson à Dulcinée, la chanson du duc et la chanson de la mort de Don Quichotte. Quatre mélodies encore, donc toujours sur le thème de Don Quichotte.
Et tout ça accompagné au piano par Elitsa Deseva, qui est la pianiste attitrée de Mikhail Timochenko depuis plusieurs années. Eh bien, nous allons pouvoir l'entendre, ce baryton russe, dans une interprétation d'une des mélodies qu'il va chanter jeudi à 12h30 à l'Opéra National du Capitole, la chanson de la mort de Don Quichotte, composée par Jacques Ibert. La chanson de la mort de Don Quichotte de Jacques Ibert, interprétée par Mikhail Timochenko, accompagnée au piano par Elitsa Deseva. C'est une des mélodies au programme du Midi du Capitole que donne ce même duo jeudi prochain, le 9 novembre à 12h30 à l'Opéra National du Capitole. Et toujours jeudi prochain, mais à 20h à la Halle aux Grains, il y a un concert de l'Orchestre National du Capitole placé sous la direction d'une vieille connaissance, le chef américain Joseph Svensen. Le programme de la soirée est très varié, comme vous allez pouvoir le constater, d'autant plus, Serge, qu'il y a aussi deux solistes, dont un que l'on va entendre pour la première fois à Toulouse. Mais le concert commence avec une œuvre orchestrale contemporaine d'une jeune compositrice française qui fait maintenant parler d'elle depuis quelques années tout de même.
Oui, absolument, c'est Camille Pépin. Mais il faut rappeler tout de même que Joseph Svensen donc, est un fidèle compagnon
de
l'Orchestre National du Capitole.
Le groupe n'est pas trop fort.
Et qu'il occupe de nombreuses charges. Il va prendre le nouveau poste de directeur musical de l'Orchestre National de Bordeaux, hein, Aquitaine, en début de la prochaine saison. Il est aussi chef principal invité de l'orchestre de Grenade, en Espagne, et il a occupé des postes très importants. Et puis, il a également mené une grande carrière de violoniste. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Et il est également compositeur. Enfin, c'est vraiment un musicien universel. C'est incroyable.
Et il est adoré des musiciens du Capitole. Absolument. C'est vraiment un de leurs chefs préférés.
Oui. Il y a vraiment des liens très étroits qui se sont tissés entre les musiciens et lui. Et rappelons que tout de même, l'année dernière, c'est lui qui avait imaginé et créé l'Odyssée du Ring, un voyage lyrique symphonique à travers les quatre opéras de la tétralogie de Wagner. Une soirée qui avait été acclamée à Toulouse, c'était en mai 2023. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui a des liens forts avec notre orchestre et donc qui va effectivement créer à Toulouse au moins une œuvre de Camille Pépin qui est une jeune compositrice donc et une œuvre qui s'appelle L'Aniakea. Alors cette œuvre signifie d'après Camille Pépin paradis céleste incommensurable en langage hawaïen. Alors pourquoi l'hawaïen ? Ben je ne sais pas, on aura peut-être quelques explications et donc elle est qualifiée souvent de fresque cosmique. Et elle est inspirée d'un amas de galaxies qui porte ce nom, l'Aniakea, donc, dans lequel gravite la Voie lactée, notre Voie lactée. C'est vraiment une œuvre cosmique, absolument, qui nous sera présentée. Et elle a été créée par l'Orchestre National de Lyon.
C'était une commande, hein ?
C'était une commande, oui. Et ça a été créé le 16 mai 2019, donc c'est une œuvre qui a déjà 4 ans, sous la direction, à l'époque, de Leonard Slatkin. Bah, une œuvre intéressante à découvrir.
Camille Pépin, comme je le disais, on en entend parler depuis plusieurs années, à tel point qu'elle a eu une victoire de la musique classique du compositeur de l'année en 2020.
Oui, tout de même.
Vous voyez, elle avait à peine 30 ans, elle va avoir 33 ans dans 10 jours, hein, Camille Pépin. Elle était l'élève de Thierry Esquèche et Guillaume Connaisson, entre autres, hein, au CNSM à Paris. Mmh. Mais alors sa musique, et on va le constater là dans quelques instants, je trouve qu'elle se rapproche beaucoup plus de celle des minimalistes américains, notamment de celle de Steve Reich, que de celle d'un Thierry Esquèche ou d'un Guillaume Connaisson.
Oui, ou de Marc-André Dalbavy, qui a également été son professeur.
Oui, alors bon, il y a des chances que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne connaissent pas encore la musique de Camille Pépin. Nous allons donc écouter un extrait de L'Aniakea dans la version commandée et créée par l'Orchestre National de Lyon. Thank you. La Niakea, composition de Camille Pépin dans la version créée par l'Orchestre National de Lyon il y a 4 ans. C'est donc la pièce qui ouvre le concert de l'Orchestre du Capitole jeudi à la Halle aux Grains. On en parlait là en l'écoutant. Mmh. Effectivement, il y a quand même une certaine parenté avec la musique d'un Steve Reich. Et vous trouvez aussi avec les planètes de Gustav Holst.
Il y a un peu de ça aussi, mais ce qui est normal.
La thématique étant la Voie lactée.
La thématique est la même, presque.
Alors donc, cette œuvre va être suivie d'une œuvre plutôt rarement donnée en concert, celle-ci, bien qu'elle ait été écrite par un très grand compositeur, Serge. Mais le double concerto pour violon et violoncelle en la mineure, opus 102 de Johannes Brahms.
Oui, une œuvre magnifique. Hein. En fait, la dernière œuvre concertante de Brahms.
Oui,
hein.
Oui. Donc, elle est même postérieure à sa quatrième et dernière symphonie,
de
2 ans, je crois. Mais œuvre difficile, hein. C'est sans doute pour ça qu'on l'entend rarement en concert, j'imagine, parce qu'il faut deux solistes, évidemment,
deux solistes
de très haut niveau.
Vraiment de haut niveau. Et en l'occurrence, je crois que nous aurons deux excellents solistes, puisque le violoniste n'est personne d'autre que le violon super soliste de l'orchestre, Christik Jessy, que l'on a déjà entendu assez souvent comme soliste dans des concertos. Hein, et donc, c'est vraiment un violoniste de grande confiance. Et puis, par le violoncelliste qui s'appelle Jonathan Svensson.
Ça me dit quelque chose, Svensson.
Oui, exact. Hein, ça rappelle un peu le nom du chef d'orchestre, puisqu'il s'agit de son fils, donc, qui viendra jouer cette partie de violoncelle, donc du double concerto de Brahms. À découvrir cet artiste.
Qui a choisi le violoncelle et pas le violon comme son père.
Non, exactement.
Il est intelligent ce garçon. Oui, mais donc oui, ça va être, je le disais tout à l'heure, ça va être une première à Toulouse pour ce jeune musicien, dirigé par son père. Alors je ne sais pas, c'est peut-être pas facile d'être dirigé par son père d'ailleurs. Bon, vu comme Joseph Svensson est très bienveillant avec les musiciens de l'orchestre, à qui il l'adore, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit différent avec son fils, quoique parfois on a des surprises. Et donc oui, cette œuvre, il y a très longtemps qu'elle n'a pas été donnée, je pense que vous...
J'ai l'impression, oui, je n'ai pas souvenir de la dernière exécution de cette œuvre à la Halle aux Grains.
Alors cette forme musicale avec deux ou plusieurs solistes est très rare, hein, notamment au XIXe siècle. En revanche, bon, je pense que c'est aussi un clin d'œil sans doute au triple concerto pour revenir à Beethoven.
Mais voilà, mais il y a un piano en plus.
Il y a le piano en plus. Voilà. Mais ça, c'était plus courant au XVIIIe siècle.
Oui. Bah, c'est des concertos grosso.
Ces œuvres concertantes avec plusieurs instruments solistes.
Exactement, oui, oui. Ben là, donc, nous allons réentendre, redécouvrir cette œuvre magnifique. C'est vraiment une œuvre magnifique.
Le voici, ce fameux double concerto pour violon et violoncelle en la mineur opus 102 de Johannes Brahms, illustré ici par son troisième mouvement Vivace non troppo, dans une version des Allemands Julia Fischer au violon et Daniel Müller-Schott au violoncelle. Thank you. Le troisième mouvement, Vivace non troppo, du double concerto pour violon et violoncelle en la mineur, opus 102 de Johannes Brahms, interprété par Julia Fischer au violon et Daniel Müller-Schott au violoncelle. Voilà donc pour la deuxième œuvre au programme du concert de l'Orchestre du Capitole jeudi soir. Quant à la troisième, on la connaît mieux, même si on l'entend pas si souvent que ça à Toulouse, c'est la sixième symphonie dite pathétique de Tchaïkovski.
Et oui, sa dernière symphonie, puisqu'elle a été composée entre février et août 1893, qu'elle a été créée donc en octobre 1993 à Saint-Pétersbourg, sous la direction de Tchaïkovski lui-même, mais elle précède de peu la mort du compositeur, qui est mort donc le 6 novembre de cette même année 1993.
Et oui, parce que la création c'est 28 octobre,
et, oui.
Et il est mort une dizaine de jours après, donc voilà, le 6 novembre.
Ouais. Alors, il y a des tas de bruits qui courent sur sa mort.
Suicide, pas suicide.
Suicide, oui. Pas suicide. Empoisonnement. Enfin bon, il y avait des problèmes d'épidémie à l'époque. On ne sait pas.
Sachant qu'il était dépressif depuis longtemps.
Oui, ça oui. Ça,
et Dieu sait si ça s'entendait dans sa musique.
Exactement. Mais d'ailleurs, cette symphonie est particulièrement dépressive. Elle s'achève sur le silence de la mort, on peut dire. Hein, c'est vraiment étonnant.
Mais d'ailleurs, il faut savoir que c'est son frère Modeste qui lui a donné le nom de pathétique. Bon, parce qu'elle est très tourmentée. Bon, ça, on va le voir dans l'extrait qu'on va écouter dans quelques minutes. Mais il avait proposé d'abord tragique. Il voulait l'appeler symphonie tragique. Oui. Et Tchaïkovski n'en a pas voulu. Non, quand même pas.
Non. Enfin, pathétique, c'est pas mal non plus. Hein.
Oui, bon, c'est très bien trouvé.
Oui.
Très bien trouvé. Alors, c'est la dernière, mais il en a commencé une septième, je crois, bon, qu'il n'a évidemment pas pu achever. Il y en a une qui est inachevée. Mais bon, voilà. Lui, il n'est pas arrivé jusqu'à la neuvième comme d'autres.
Et non, cette fameuse malédiction des neuvièmes après Beethoven. Qui a affecté les œuvres symphoniques de très nombreux compositeurs.
Alors, je disais, a priori, qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, en tout cas la Halle au Grain par l'Orchestre du Capitole. Ouais. Moi, je n'en ai pas le souvenir. Il y a une douzaine d'années, je sais qu'elle avait été donnée à Toulouse, mais je ne sais pas si c'était par l'orchestre. Peut-être que c'était aux grands interprètes. C'est assez étonnant parce que c'est une des plus célèbres de Tchaïkovski.
Oui. Avec la quatrième.
Avec la quatrième, oui, mais bon.
La quatrième a été donnée plus récemment.
Oui, notamment, évidemment, avec un chef russe comme Tougan-Sokiev.
Mais
cette sixième, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater ce concert aussi pour pouvoir écouter cette œuvre. Quatre mouvements.
Oui, les quatre mouvements, j'allais dire classiques, mais pas si classiques que puisque les caractères de ces quatre mouvements ne suivent pas la nomenclature classique, hein, mouvement rapide, mouvement lent. Scherzo et mouvement rapide, pas du tout, hein, donc c'est autre chose.
Voilà, tonalité en si mineur. Ben, on va écouter un extrait de cette sixième symphonie pathétique de Tchaïkovski. J'ai choisi le début du deuxième mouvement Allegro con Grazia dans une version de l'orchestre symphonique du Mariinsky dirigé par Valéry Gergiev.
Thank you.
le deuxième mouvement Allegro con Grazia de la 6e symphonie pathétique de Tchaïkovski dans une version de l'orchestre symphonique du Mariinsky sous la direction de Valérie Gergiev, mais c'est bien José Svendsen qui va la diriger lors du concert que donne l'Orchestre National du Capitole ce jeudi 9 novembre à 20h à la Halle au Grain. Mais la veille, il y aura déjà une première version un peu abrégée, Serge.
Oui, exactement. Le 8 novembre, c'est un concert gratuit à l'intention des étudiants qui est organisé, au cours duquel seront données l'œuvre de Camille Pépin, la Niakea, et la symphonie pathétique. Donc, ils n'auront pas le double concerto de Brahms, mais c'est tout de même un concert gratuit pour tous les étudiants toulousains.
Et c'est un magnifique programme en plus.
Un programme magnifique, et donc je crois que ça va attirer toute la foule des jeunes étudiants toulousains.
Mais il faut qu'ils y aillent en tout cas.
Ah oui.
Alors, à la Halle au Grain se tient un autre concert le lendemain, toujours à 20h, pour le compte de la saison des grands interprètes cette fois, celui d'une des stars de la scène lyrique baroque actuelle, le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, qui se produit aux côtés d'une formation souvent invitée à Toulouse par les grands interprètes depuis quelques années, l'ensemble italien Il Pomodoro, Serge.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment une coqueluche du chant baroque. Hein,
ah oui, oui. Oh, bah, il a tout pour lui, ce garçon.
Ce contre-ténor, puisqu'il est également danseur de breakdance, donc il a des particularités incroyables.
C'est même un champion, je crois, de breakdance.
Oui, 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 il a gagné des prix, oui, exactement. Oui, oui. Donc, mais c'est vraiment un chanteur à la voix d'or, hein, une très belle voix, une voix angélique. Il a en fait d'abord étudié à l'université Frédéric Chopin de Varsovie. Il en est sorti diplômé d'une maîtrise et puis il a participé à des compétitions de chant lyrique en Europe et aux États-Unis et il a décroché des prix prestigieux dans ces institutions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien le répertoire de la Renaissance, surtout italienne. Et c'est dans ce répertoire qu'il va briller, j'en suis sûr, au cours de ce concert du 10 novembre. Alors, il est accompagné donc par cet ensemble Il Pomodoro, qui a été fondé en 2012 hein, et qui a été dirigé par des chefs tels que Zefira Valova et puis surtout Maxime Emelianichev, que l'on a vu très souvent à Toulouse, y compris pour diriger l'Orchestre National du Capitole. Et donc, c'est vraiment un bel ensemble qui joue sur instruments d'époque, un répertoire qui est largement dédié au XVIIIe siècle, évidemment.
Oui, alors ce ne sera pas Maxime Emelianichev, a priori, qui
non,
va diriger
priori,
l'orchestre. Alors ce programme, il y a une quinzaine de pièces, donc c'est extrêmement charnu. Et il y a des compositeurs très connus comme Monteverdi, Barbara Strozzi, Frescobaldi, Barbara Strozzi, bon, on les connaît,
oui,
mais il y en a d'autres.
Il
y a Caccini aussi, puis sinon il y a Marini, Kerl, Cavalli, Pallavicino, Netti, Sartorio, un certain Moratelli également. Et puis, il y a un intrus, Jarzebski. Alors lui, il doit être polonais.
Ça ne sonne pas vraiment italien. Non,
oui, il a réussi à glisser un compositeur polonais dans cette petite liste à la Prévert.
Oui, mais le titre de l'œuvre, c'est Tambuletta.
Ben oui, comme alors, souvent, bon. À cette époque-là, les titres étaient en italien.
Et oui.
Les titres des mouvements, en tout cas.
Ouais.
Voilà, bon, Jakub Józef Orliński, c'est pas une première à Toulouse puisqu'il était venu il y a 2 ans, au mois de juillet, pour les Nuits d'été qu'avait organisé Christophe Gresti, où il y avait beaucoup de pointures de la scène lyrique internationale actuelle qui s'étaient produites, pour la première fois à Toulouse. Et donc là, ce sera une deuxième fois, mais à la Halle au Grain cette fois-ci, avec ce magnifique répertoire. On va écouter Jakub Józef Orliński dans ses œuvres. Il chante ici « Lunghi dai nostri cor », extrait de la Faretra Smarita, composé par Sebastiano Moratelli.
Oh,
L'air Lunghi dai nostri cor, extrait de la Faretra Smarrita, le Carquois perdu, sérénade composée par Sebastiano Moratelli en 1690 et chantée ici par Jakub Józef Orliński, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. C'est une des pièces au programme du concert que donne le contre-ténor polonais avec l'ensemble italien vendredi prochain, le 10 novembre à 20h, à la Halle au Grain, dans le cadre du cycle des grands interprètes. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Avant de rendre l'antenne, je voulais dédier cette émission à François Laurent, qui était longtemps flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole. Nous venons d'apprendre son décès aujourd'hui même, Serge, avec beaucoup de tristesse.
Ah oui, beaucoup de tristesse. C'était un grand musicien, vraiment un flûtiste excellent, en plus qui a collaboré à la Fondation des Clés de Saint-Pierre. Oui. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important qui vient de nous quitter et qui avait pris sa retraite il n'y a pas très longtemps.
Non, et qui était très très apprécié dans l'orchestre et aussi Exactement. Par l'ensemble du public de la Halle au Grain, qui le connaissait bien. Il était venu dans ce studio. François Laurent, donc voilà, un petit salut, et donc cette émission est dédiée à sa mémoire. Alors je rappelle que Mikhail Timochenko est en récital à l'Opéra National du Capitole, jeudi 9 novembre à 12h30. Il s'agit d'un midi du Capitole pour lequel le jeune baryton russe est accompagné par la pianiste Elitsa Deseva. Il va chanter un programme de mélodies de Ravel, Rachmaninov, Tchaïkovski et Ibert. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. L'Orchestre National du Capitole est en concert ce même jeudi 9 novembre à 20h à la Halle au Grain, sous la direction de José Svensson. Il va interpréter l'Agnacéa de Camille Pépin, le double concerto pour violon et violoncelle opus 102 de Johannes Brahms et la 6e symphonie pathétique de Tchaïkovski. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle enfin, pour terminer, les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines les 13 et 14 novembre à 20h30, où ils présentent un programme intitulé Émoticône. Les places sont à réserver et acheter en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Merci à Serge Chosy d'avoir co-animé cette émission à mes côtés et à Francky Guéret de l'avoir réalisée. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci à nos auditeurs de rester fidèles à notre écoute. Excellente semaine musicale à tous.